franceinter.fr.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'abracadabrantesque affaire de la cassette mairie, un dossier qui a défrayé la chronique en septembre 2000. La cassette mairie, document audiovisuel, porteur d'un témoignage posthume qui a fait la une de tous les médias après que le journal Le Monde en a révélé l'existence et en a publié le verbatim. Et pour cause, celui qui témoigne sur la bande, à visage découvert face à la caméra du journaliste Arnaud Hamelin, est l'un des anciens collecteurs de fonds pour le RPR, un certain Jean-Claude Méry. Et ce monsieur en dit beaucoup. Il explique par le menu comment la machine RPR a procédé pour contourner les règles de financement des campagnes électorales. Pour la justice qui enquête depuis des années sur un système de financement occulte, la cassette devient une sorte de Graal, la pièce à conviction numéro 1. Dès lors, un vent de panique souffle sur le pouvoir, car Jacques Chirac, ouvertement et nommément mis en cause, est président de la République au moment des faits, en 2000. Jean-Claude Méry le désigne même comme l'architecte de ce système de corruption. Et ce n'est pas tout. Dans la foulée, on apprend que Dominique Strauss-Kahn aurait obtenu l'original de la cassette moyennant un arrangement fiscal malhonnête en faveur d'un grand couturier du monde de la mode. Voilà, fisc, mensonge et vidéo, tel apparaît l'affaire de la cassette mairie qui devait faire sauter la République et qui n'a rien fait sauter du tout. Nous en parlerons avec notre invité, bien sûr, en deuxième partie d'émission. Après le récit, notre invité Zineb Drieff, journaliste à M, le magazine, l'hebdomadaire du journal Le Monde, qui a enquêté rétrospectivement sur cette affaire dans un article publié en février dernier. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, comédien Delphine Vallée et Philippe Pirard, réalisation Coy Nguyen, Jérôme Chelius et Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui Ludovic Asselot.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
9 mars 1995, 11h du matin, maison d'arrêt de Fresnes, banlieue parisienne. Devant la grande porte de la prison, un gardien est en faction, bien sûr, mais il n'est pas seul. Une nuée de journalistes est postée là, depuis l'aube. Sur le trottoir d'en face, s'est garée une berline grise aux vitres fumées. Soudain, le portail s'ouvre, un homme sort. Il est de grande taille et de forte corpulence. Son front est légèrement dégarni, son visage est celui d'un individu fatigué. Il tient ses lunettes et sa veste à la main. Immédiatement, les journalistes l'assaillent et tentent de lui poser des questions. Alors des policiers s'interposent. Puis l'homme et son avocat s'engouffrent dans le véhicule gris qui attendait. Celui-ci part en trombe. À bord de ce véhicule qui fonce pour rejoindre Paris, s'est assis à côté de son avocat l'homme sur qui semblait se focaliser toute l'attention des journalistes quelques minutes auparavant. Il sort tout juste de détention préventive pour son rôle dans le dossier des marchés publics des HLM de la ville de Paris. Une affaire de fausse facturation sur des prestations immobilières qui aurait permis l'enrichissement occulte de responsables politiques et surtout d'un parti, le RPR en l'occurrence. L'homme qui regarde par la vitre de la voiture a l'air soucieux. Il s'appelle Jean-Claude Méry. C'est l'homme qui va être le personnage clé de toute notre affaire qui d'ailleurs est pour preuve, porte son nom. Arrivé en bas de chez lui, alors qu'il s'apprête à prendre l'ascenseur pour monter dans son appartement, il est de nouveau pris à partie par les journalistes.
Non, ne parlez pas.
Comprends que ce soit pas
évident. S'il vous plaît, s'il vous plaît, cette affaire est en... S'il vous plaît, cette affaire est en instruction. J'ai reçu des instructions du juge, je ne répondrai à rien. Je vous préviens, vous passez cette chaîne, France 2, vous aurez les pires soucis.
Écoutez, le moindre des choses, c'est de venir vous voir, monsieur.
Non, s'il vous plaît, soyez gentil.
C'est de venir vous voir, je suis désolé.
Je m'en poigne à la gueule.
La porte de l'ascenseur se referme. L'ancien patron de plusieurs bureaux d'études, qui était également membre du comité central du RPR, tient à rester discret, car il est toujours sous contrôle judiciaire. Et le juge Éric Alphen, qui instruit le dossier dans l'affaire de fausse facture des HLM de la ville de Paris, pourrait profiter du moindre de ses faux pas pour le renvoyer en prison. Quant aux médias, c'est la dernière fois qu'ils entendront le son de la voix de Jean-Claude Méry, de son vivant. Coup du sort ou destin qui ne dit pas son nom, dans les semaines qui suivent sa libération, Jean-Claude Méry assiste à la consécration de l'homme pour lequel il a tant œuvré et dont la réussite doit en partie à son silence, précisément, et aussi à son passage en maison d'arrêt. En effet, au soir du 7 mai 95, Jacques Chirac épouse la France devant 60 millions de Français.
Il est 20h. Voici le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République.
Cinquième président de la Ve République,
Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Lionel Jospin, 48% des suffrages exprimés.
Le nouveau président de la République est donc M. Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. C'est la joie, c'est la liesse, on peut le comprendre. Avenue d'Iéna, au siège du quartier général de M. Jacques Chirac. Je vous laisse écouter l'ambiance.
Dans son château élyséen, Jacques Chirac semble désormais intouchable, comme ses prédécesseurs et ses successeurs. Aussi, tout aurait très bien pu s'arrêter là, dans la fermerie. Elle aurait pu faire pchit, l'homme de l'ombre gardant avec lui ses secrets comme les grands barons de la Chiracie savent si bien le faire devant les journalistes et les magistrats. Oui, sauf que Jean-Claude Méry n'est pas l'un de ces cadors de la politique bon petit soldat, rompu au secret avec la vocation de fusible pour protéger le patron quand il y a danger. Méry, lui, n'est qu'un rouage dans un système qui peut très bien se passer de lui. Et du jour au lendemain, celui qui était un fidèle des fidèles devient un isolé, un pestiféré. Alors, sentant le danger, il décide de se mettre à table. C'est ainsi que dans le plus grand secret, un jour du mois de mai 1996, un an après sa sortie de prison, il se rend chez le producteur indépendant Arnaud Hamelin, après que leurs avocats respectifs, qui partagent le même cabinet, les ont mis en contact. Quelques années plus tard, Arnaud Hamelin revient sur cette étonnante rencontre et les motivations de son interlocuteur.
C'est une assurance vie, c'est comme je l'ai dit avant, il a dit qu'il avait... un peu peur, qu'il n'était pas tranquille, qu'il était... Vous savez, c'est un homme très désabusé quand je le vois. Moi, c'est un type qui a fait 6 mois de prison, qui sort de là, il est lâché par ses proches. Il a de gros ennuis financiers, de gros ennuis avec le fisc. Il a surtout des ennuis familiaux. Voilà. Et tout ça ensemble fait que c'est un type qui est aux abois.
Un homme aux abois qui va vite se révéler très bavard. Assis sur le sofa, face à la caméra du producteur, il livre ses confessions. Durant 72 minutes, Jean-Claude Méry lance une charge brutale, sans nuance et puis sans fournir de preuves. Il révèle ses contacts, ses anciens amis, collaborateurs, membres du RPR. Un monologue dans lequel il explique le rôle qui était le sien au sein des marchés publics de la ville de Paris et de la redistribution de l'argent qui y était collecté, en lien avec le RPR, bien sûr. Cette vidéo, c'est son assurance vie, et il a fait passer le message à tous ses anciens amis « J'ai enregistré une cassette au cas où il m'arriverait quelque chose ». Les années passent, Méry s'enferme dans le silence, jusqu'au 11 juin 1999, date de sa mort provoquée par un cancer de la gorge. Celui qu'on surnommait le financier occulte du RPR n'est pourtant pas entré dans le silence éternel, car il y a cette cassette. Oui, elle existe encore. C'est à ce moment qu'Arnaud Hamelin, le producteur qui a enregistré sa confession, décide de la transmettre aux journalistes. Jeudi 21 septembre 2000, 11h, siège du journal Le Monde à Paris. Dans la grande salle de rédaction du plus grand quotidien national français, c'est l'effervescence. Edoui Plenel, le rédacteur en chef, est sur le qui-vive. Deux de ses journalistes, Fabrice Lhomme et Hervé Gattegnaud, sont dans le même état. Un peu plus loin, le directeur du journal, Jean-Marie Colombani, scrute les dernières modifications apportées au texte qui doit faire la une du soir. Et pour cause. Les journalistes du quotidien, contactés par Arnaud Hamelin, qui leur a montré la cassette sur laquelle se confie Jean-Claude Méry, s'apprêtent à rendre publiques les déclarations de l'ancien collecteur de fonds occultes du RPR. Leur titre, qui fera la une et d'ailleurs sans équivoque, « Le testament de Jean-Claude Méry ». Sur la première page, on peut lire le récit du trucage des marchés publics dans les années 80 à Paris sous la houlette du RPR, tel est l'autre titre. À Hervé Gattegnaud, le soin de choisir les citations retranscrites dans tout ce que dit Méry. Comme cet extrait dans lequel Jean-Claude Méry raconte une entrevue dans le bureau du chef de cabinet de Jacques Chirac en présence de ce dernier.
Je vais porter l'argent moi-même dans le bureau de M. Michel Roussin, chef de cabinet de M. le Premier ministre. M. le Premier ministre va s'asseoir en face de moi. Je ne vous donnerai pas la date exacte parce que je ne l'ai pas en tête, mais je vous donnerai un point de repère pour ceux qui un jour, si malheureux, doivent lire cette bande. C'est le jour du décès du père de M. Georges Perrol, puisque nous allons parler avec M. Chirac pendant un petit quart d'heure, après avoir parlé de qui avait donné l'argent, pourquoi l'argent avait été donné, ce que nous avions fait, des textes juridiques que j'avais préparés avec mon équipe de la conférence du RPR sur l'habitat pour lui. M'être fait entendu, félicité par M. Chirac parce que je savais gagner de l'argent, mais je savais aussi préparer des textes juridiques. On parle du décès de Georges Perrol, le père de Georges Perrol, pendant un petit quart d'heure, puisque notre amitié pour l'homme nous permettait d'avoir ce moment de détente.
Si décès qui a eu lieu ce jour-là.
Ce jour-là, j'ai remis les 5 millions de francs en argent liquide directement sur le bureau de M. Roussin en présence de M. Chirac.
L'accusation est tellement importante qu'à la publication des propos de Jean-Claude Méry par le journal Le Monde, l'authenticité de la cassette est immédiatement mise en cause. Pourrait-il s'agir d'un montage, d'une manipulation, d'une tentative de déstabilisation du pouvoir? À l'Élysée, la garde rapprochée du président de la République fulmine. Une réunion a lieu en présence des membres du cabinet noir, du président, Philippe Bas, Francis Pisner, Dominique de Villepin. Car il faut trouver une parade, vite. Ils le sentent, cette affaire a tout pour décrédibiliser le président, déjà affaibli dans les sondages, d'autant plus que la prochaine présidentielle est dans moins de 2 ans. Alors, en déplacement en province, face aux caméras, Jacques Chirac tient à se montrer serein, comme si finalement cette affaire n'était qu'une intrigue de seconde zone. Toujours est-il que dans les heures qui suivent l'apparition de l'affaire dans le journal Le Monde, l'information est reprise dans tous les journaux télévisés du soir, avec, pour question de fond, le président est-il réellement impliqué dans le scandale des marchés publics de la ville de Paris et du financement occulte du RPR? En réaction, les conseillers politiques de Jacques Chirac acceptent une interview à l'Élysée avec la journaliste Élise Lucet de France 3. Un entretien millimétré où le président se lance dans un plaidoyer aux aspirations gaulliennes. Comme meilleure défense, il choisit l'attaque dans une histoire qui, selon lui, ne tient pas debout.
Je suis indigné. Indigné par le procédé, indigné par le mensonge, indigné par l'outrance. Madame Lucet, il doit y avoir des limites à la calomnie. Hier, on faisait circuler une rumeur fantaisiste sur une grave maladie qui m'aurait atteinte, sous-entendu, je ne serais plus capable d'assumer mes fonctions. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'un an. On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. On exhume un enregistrement fait il y a plus de 4 ans et dont le journal lui-même, qui publie ses propos, les qualifie d'invérifiables et de sans valeur juridique. Et tout cela, comme par hasard, 3 jours avant un référendum visant à améliorer le fonctionnement de notre démocratie. Alors je vous le dis, ces allégations sont indignes et mensongères.
L'abracadabrantesque affaire qui encombre le président et les hauts cabinets du pouvoir ne fait pourtant que commencer.
Une histoire abracadabrantesque. Il doit y avoir des limites à la calomnie. Alors je vous le dis, ces allégations sont indignes et mensongères. Abracadabrantesque.
Qu'est-ce que je peux faire?
Je sais pas quoi faire.
Je chante tout le temps dans mes appartements,
comme dans une musicale comédie
de Vincent Minnelli. What can I do?
I don't know what to do.
Toujours un printemps
dans mes emmerdements. Y a toujours une étoile qui luit au milieu de la nuit.
Quand tu es triste,
je suis triste.
Oui, c'est vrai. Quand tu es gay,
je suis gay. Mais il me suffit de chanter cet air que vous reconnaissez.
Indigne et mensongère.
C'est quoi cet air?
Abracadabrantesque, abracadabrantesque.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je chante tout le temps dans mes appartements, comme dans une musicale comédie de Vincent Minnelli.
What can I do?
I don't know what to do.
des emmerdements. Il y a toujours une étoile qui luit au milieu de la nuit.
Le lendemain des déclarations de Jacques Chirac sur l'enregistrement, le vendredi 22 septembre 2000, les journalistes du quotidien Le Monde reviennent à la charge et publient de nouveaux extraits de la cassette Mairie qui agissent comme du curare, goutte après goutte. Dans la deuxième partie de son testament, l'ancien financier occulte du RPR explique comment ce qu'il appelle la maison ou la machine, comprenez ici le RPR, bénéficiait de retours substantiels sur les marchés publics de la ville de Paris. Tout marché de ce type soumis à des appels d'offres était sujet à des rétrocommissions. Alors on connaît le principe. Moi, force publique, je t'attribue le marché. En retour, je prends une commission. Bah, mon parti a besoin d'argent pour financer la campagne qui s'annonce ou qui bat son plein. C'est selon. Pour comprendre comment le système fonctionnait, Jean-Claude Méry donne lui-même l'explication. L'extrait que vous allez entendre provient une fois de plus de la cassette tournée par Arnaud Hamelin en 1996.
Comment ? Ben c'est simple. Appel d'offres sur la peinture. Il faut peindre toutes les cages d'escalier, il y a 140 millions de marchés. Je vais faire venir 10-15 entreprises. On va faire un appel d'offres à candidature. Un appel à candidature. On va sélectionner 10 entreprises. Puis pour ne pas avoir d'emmerdement, on va répartir les lots entre les 10 entreprises. Elles vont faire une offre de gré à gré. Elles sont sélectionnées. Elles vont faire une offre de gré à gré en recalculant et rebasant leur prix. C'est-à-dire que tel lot est le plus cher, tel lot est le moins cher, tel lot est le plus cher, tel lot est le moins cher. On fait la répartition et c'est comme ça. Très gentiment et le plus légalement du monde, sans que personne n'y voit rien, ne dise rien, on va gérer gentiment près de 140 millions de francs pour la peinture, 240 millions de francs pour la peinture, 400 millions de francs pour la peinture, 120 millions de francs par an pour la vitrerie, les montages, 100 millions de francs pour la fourniture. On va gérer ainsi l'intégralité des marchés. Tranquillement, ce qui va rapporter une dizaine de millions de francs, bon an, mal an, je dirais, à la machine.
Il n'en faut pas plus au juge Éric Alphen qui enquête sur le dossier des HLM de la ville de Paris pour aller perquisitionner les bureaux d'Arnaud Hamelin et de sa société Sunset Press. Pour l'occasion, le magistrat du tribunal de Créteil est accompagné de deux de ses collègues, deux juges du pôle financier chargés d'instruire l'affaire des marchés publics de la région Île-de-France. Signe que, malgré les nombreuses déclarations des hommes politiques, surtout de droite, qui remettent en cause l'authenticité de la cassette Mairie, cette dernière est prise très au sérieux par la justice. Ce qui explique une telle motivation de la justice pour cette bande vidéo, ce sont bien sûr les accusations de financement occulte du RPR à Paris dans les années 80-90, dont les plus connues concernent les HLM de Paris, affaire qui empoisonne depuis des années le débat politico-judiciaire. Un dossier dans lequel, et malgré toute sa détermination, le juge Éric Alphen piétine, alors que les présomptions de culpabilité et les preuves matérielles se multiplient en direction de Jacques Chirac et des proches de l'ancien maire de Paris. Seulement voilà, les témoignages ne sont pas nombreux et l'omerta est toute puissante, en tout cas efficace. Et c'est ainsi que la justice prononce en 1995 un non-lieu pour Michel Roussin, l'ancien chef de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Pendant ce temps, à droite, de nombreuses voix s'élèvent et crient à la manipulation. Étrangement, la gauche reste discrète et n'exploite pas la situation. Pourquoi ? Eh bien parce que les journalistes du Monde mettent en avant d'autres séquences de la cassette, des séquences dans lesquelles Jean-Claude Méry explique que la droite n'était pas la seule à profiter de ces rétro-commissions. Quand on écoute les extraits, on comprend immédiatement.
On pousse les machines comme des fous partout. Parce que même Larry Brocard ne va pas arrêter la machine, au contraire. On va même s'entendre avec les socialistes. On va répartir la manne. Et chaque fois qu'il y a à manger pour tout le monde, on distribuera à tout le monde. Je vais prendre des sociétés communistes. Pour faire, par exemple, l'entretien des égouts, je vais prendre la société Ypren. Je vais prendre des sociétés recommandées par les socialistes. On va donner à manger à tout le monde. C'est ce qui fait que tout le monde va s'entendre parfaitement et qu'il va y avoir du boulot pour tout le monde. Mais en même temps, la maison va encaisser, ou ici en France, ou en Suisse, des sommes d'argent de plus en plus importantes.
Invité à s'exprimer dans les médias, Gérard Monnat, l'ancien trésorier du PS, dont le rôle est à l'époque de trouver l'argent là où il est, et qui a été condamné à plusieurs reprises dans les affaires de financement occulte du PS, confirme aux journalistes qu'il a bel et bien été sollicité par Méry, mais oui, lui aussi.
Je sais qu'il m'avait dit un jour, il avait pris contact avec moi en disant qu'il allait retoucher un gros pactole pour le chauffage des lycées de toute la région parisienne et qu'il avait reçu une instruction politique de la répartir entre toutes les composantes du conseil régional. Ça, il l'avait dit. Mais à l'époque, il m'avait dit, il y aura 1 500 000 pour EPS, est-ce que tu veux se charger de le transporter ? Ce à quoi j'ai répondu non, non.
Au soir du vendredi 22 septembre, coup de tonnerre sur la République, droite et gauche sont concernés par les révélations de Jean-Claude Méry.
Il doit y avoir des limites à la calomnie.
Après les nouvelles révélations du journal Le Monde, le juge Alphen réalise une deuxième perquisition dans cette affaire qui, de fil en aiguille, semble loin, bien loin d'avoir tout révélé. Et cette fois, c'est le cabinet de Lowe, l'avocat fiscaliste de Jean-Claude Méry, qui est visé. Car les magistrats ont retrouvé chez Arnaud Hamelin une copie de la dite cassette et entendent bien mettre la main sur l'original. Après plusieurs heures de prospection, la fouille des bureaux de l'avocat ne donne rien. Belot est placé dans la soirée en garde à vue. Face au juge, il affirme qu'il n'a pas la cassette, en tout cas qu'il ne l'a plus. Étonné, les juges lui demandent « Mais alors, où est-elle passée? À qui l'avez-vous confiée? Un document de cette valeur, ça ne s'égare pas comme ça. » Et c'est ainsi que Belot, conseil du défunt Jean-Claude Méry, fait un aveu qui va faire basculer le cours de cette affaire.
« Monsieur le juge, je dois à la vérité de vous dire que je n'ai pas détruit cette cassette et que je l'ai remise à Monsieur Dominique Strauss-Kahn en avril 1999 au ministère des Finances rue de Grenelle. Je le rencontrai à cette occasion pour lui parler d'un dossier fiscal concernant Karl Lagerfeld. Je connaissais Dominique Strauss-Kahn depuis 1989 pour avoir été son conseiller en matière fiscale lorsqu'il était président de la Commission des Finances. »
Dominique Strauss-Kahn, l'ancien ministre de l'économie et des finances du gouvernement de Lionel Jospin, qui a dû démissionner parce qu'il était poursuivi pour faux usage de faux dans l'affaire de la MNEF. Et puis Karl Lagerfeld, le grand couturier et directeur artistique de la maison Chanel. Ce rebondissement est une aubaine pour la droite, un moyen de détourner l'affaire qui jusque-là mettait en cause le RPR et lui seul. Maintenant, il y a Dominique Strauss-Kahn, un morceau de choix. Lundi 25 septembre, Palais de l'Élysée. Premier à demander une enquête sur le rôle joué par Dominique Strauss-Kahn dans cette affaire, Jacques Chirac, ni plus ni moins. Évidemment, cette affaire dans l'affaire est une aubaine pour lui. Et ses conseillers y voient un contre-feu idéal pour éteindre l'incendie de la maison RPR. Le président s'entretient avec son premier ministre, Lionel Jospin, à qui il demande de mettre en place une enquête des plus rigoureuses au sein de l'administration fiscale pour déterminer les tenants et les aboutissants de ce dossier. C'est Laurent Fabius, ministre de l'économie et des finances, qui en a la charge. Quant à DSK, il fait le tour des rédactions et des médias pour clamer sa bonne foi dans un dossier qu'il dépasse.
Dominique Strauss-Kahn avait rendez-vous à la radio ce matin. Au journaliste, il lance un laconique « Bande de connards ». La suite concerne la fameuse cassette qu'il dit ne pas avoir utilisée.
Je comprends que les gens trouvent bizarre que parce qu'on me remet une cassette, je me précipite pas pour regarder ce qu'il peut y avoir de croustillant
ça,
dedans.
Ça oui, c'est ça qui est assez peu crédible. Hein,
je le comprends. Sauf que les H&M de Paris, ça m'a jamais intéressé. On en parlait beaucoup à l'époque. J'ai pas pensé que cette cassette était si importante que ça. Et donc, je ne m'en suis pas préoccupé.
Quand les juges, qui sont toujours à la recherche de l'original de la cassette, demandent à Dominique Strauss-Kahn ce qu'il en a fait, d'un ton détaché et laconique, il répond « Oh, j'ai dû l'égarer. Égarer. » On s'en doute, cette formule ne convainc pas les juges qui perquisitionnent dans la foulée son bureau, conseil régional d'Île-de-France et son domicile parisien. Mais ils font chou blanc. Cependant, Dominique Strauss-Kahn confirme avoir reçu la cassette des mains de Maître Belot lorsque ce dernier était venu s'entretenir avec lui il y a plus d'un an de cela pour l'un de ses clients qui devait beaucoup d'argent au fisc. Ce client qui était Karl Lagerfeld. Les magistrats ont donc des soupçons, de gros soupçons, sur le lien étrange qui unit DSK, Maître Belot, Karl Lagerfeld et la cassette Méry. Un an plus tard, le magazine L'Express révèle une note détaillée de 8 pages du procureur de Paris sur l'affaire. Ses conclusions interpellent.
De fortes présomptions de faits de corruption résultent de l'examen du dossier fiscal de M. Karl Lagerfeld et de la façon dont il a été réglé. En effet, Dominique Strauss-Kahn, personne dépositaire de l'autorité publique, semble avoir accordé à Karl Lagerfeld une exonération des droits, contributions, impôts ou taxes publiques en violation des textes légaux ou réglementaires. De fortes présomptions de faits de corruption passive à l'encontre de M. Dominique Strauss-Kahn pourraient être mises à sa charge dans la mesure où il reçoit la cassette Méry remise par Maître Alain Belot le 6 avril 1999. Et il prend 5 mois plus tard, en août 1999, la décision de ramener la dette fiscale de Karl Lagerfeld de 200 à 43 millions de francs.
L'affaire Méry devient dès lors l'affaire DSK Méry. Elle embarrasse le PS, forcément. Nombreux sont alors les figures du parti à prendre la parole dans les médias pour mettre en porte-à-faux l'ancien membre du gouvernement socialiste. Parmi elles, Ségolène Royal, qui y voit un moyen d'écarter DSK, rival potentiel de ses ambitions, avec une formule qui fera date. Les personnalités politiques sont là pour servir et pas pour se servir. Six ans plus tard, elle écartera tranquillement son rival par la voie des primaires, la voie des urnes, bref, tout ça pour ça. Toujours est-il que dans les jours qui suivent, les révélations continuent dans la presse. Le mercredi 4 octobre, c'est le Canard enchaîné qui s'y met. D'après l'hebdomadaire, toujours bien renseigné, certains extraits du témoignage de Jean-Claude Méry ont été coupés et ils mettraient en cause l'ancien chef de cabinet de Philippe Séguin, Roger Carucci, accusé d'être venu pour le compte de la maison chercher la manne. Le 18 octobre, Arnaud Hamelin, le journaliste qui a enregistré la déclaration Méry et qui l'a transmise à ses confrères, est mis en examen, ce qui provoque un début de polémique. Arnaud Hamelin, qui ne faisait que son travail de journaliste, sera par la suite relaxé, mais pour sa réputation, le mal est fait. Au château, on se félicite de ce revirement de situation. Désormais, dans les médias, on ne parle plus que de DSK et Jacques Chirac peut respirer à l'ombre de la scène médiatique. Cependant, les magistrats, dont le juge Éric Alphen, vont très vite se rappeler au bon souvenir du président. Toute la question, celle qui mobilise l'opinion, c'est l'éventualité d'une comparution du président de la République devant le juge, ce qui serait une première dans ce pays qui a inventé à la fois la République et la monarchie républicaine, dont la cinquième est l'illustration la plus caricaturale en Europe. Au même moment, un sondage Sofres pour Le Monde révèle que 71% des Français estiment anormal l'immunité présidentielle et que 72% attendent que Jacques Chirac s'explique. Sur les bancs de l'Assemblée, c'est le député Noël Mamère qui relance le débat de l'immunité du chef de l'État. Une immunité accrue depuis 1999 par le Conseil constitutionnel présidé par le socialiste Roland Dumas qui accorde durant son mandat au président une protection même pour les délits commis avant sa prise de fonction. Certains y voient un cadeau de Roland Dumas à Jacques Chirac pour l'avoir soutenu lors de l'affaire des frégates de Taïwan, mais là, c'est une autre affaire que nous vous raconterons un autre jour. Toujours est-il qu'au mois d'avril 2001, six mois après les révélations du journal Le Monde autour de la cassette Méry, le juge Alphen convoque le président de la République en qualité de témoin pour qu'il s'explique sur les éléments à charge contre lui dans le dossier des HLM de la ville de Paris. Jacques Chirac ne donne pas suite à la demande du juge, bien sûr. En réponse, le magistrat s'estime incompétent pour continuer l'instruction. Éric Alphen sera dessaisi et tous les actes concernant Jacques Chirac seront annulés pour vice de forme. La suite, on la connaît, en trois mots, c'est même pas mal. Jacques Chirac ne sera pas inquiété dans l'affaire des HLM et obtiendra tranquillement sa réélection en 2002. Il pourra même ajouter au bilan de ses deux mandats la réinvention d'un mot tombé en désuétude, abracadabrantesque. De son côté, le procureur de la Cour de cassation renoncera à saisir la Cour de justice de la République concernant Dominique Strauss-Kahn. Seul Alain Belot, l'avocat du défunt Jean-Claude Méry, sera condamné à 4 mois de prison avec sursis en 2003 pour violation du secret professionnel. Cherchez l'erreur.
Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la cassette mairie, fisc, mensonge et vidéo. Nous allons en parler avec notre invité Zineb Drieff. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes journaliste à M, le magazine hebdomadaire du journal Le Monde. Alors, vous avez enquêté rétrospectivement, un peu comme nous d'ailleurs, sur cette affaire en février dernier à l'occasion d'un grand article dans le magazine pour lequel vous travaillez. 5 pages pleines qui font le point de cette affaire. Alors, ce qui est très intéressant dans cette émission-là, c'est que nos invités, parfois, peuvent apporter des compléments de récit, précisément. Et je voudrais qu'on revienne sur la façon dont tout a commencé à travers la déposition d'un certain Patrick Desmures, dont nous n'avons pas parlé. Et vous allez compléter précisément cet aspect de l'affaire, qui est le début.
Qui est le début de l'affaire ? L'affaire, elle démarre en 94. Elle démarre dans le bureau d'un premier juge qui est peu connu à l'époque. C'est le juge Alphen qui enquête sur deux employés du RPR qui sont salariés par une boîte de BTP. Donc il commence à travailler sur cette affaire qui va lui être retirée. C'est un peu obscur. Et elle atterrit sur le bureau d'un autre juge d'instruction, Patrick Desmures, qui est moins connu, mais c'est un grand juge d'instruction. Il a instruit plusieurs dossiers sensibles. C'est quelqu'un qui a une particularité, c'est qu'il ne parle jamais à la presse. Il n'a jamais parlé à la presse, donc il n'y a pas de portrait. Et pendant plusieurs années, il va instruire l'affaire des emplois fictifs. Il va pas lâcher, il va détricoter comme ça cette affaire qui a l'air comme ça un petit peu complexe et remonter jusqu'à Jacques Chirac.
Donc cette déposition chez Patrick Desmures qui allume la mèche, en fait. Alors, on a aussi parlé beaucoup dans le récit des financements occultes d'un parti, le RPR, en l'occurrence par l'attribution de marchés publics, moins par les emplois fictifs, parce qu'il y a aussi ce volet. À ceci près que, forcément, tout est dans tout. Les deux volets sont liés. C'était quoi le fonctionnement ?
Les deux volets sont liés. En réalité, les emplois fictifs du RPR, comme l'affaire va durer très très longtemps, on a l'impression que c'est extrêmement complexe. En réalité, c'est assez simple. C'est un parti, le RPR, qui va faire salarier certains de ses employés, soit par des entreprises privées, donc de BTP, soit par la mairie de Paris. Et en réalité, pour convaincre les entreprises de payer donc ces salariés qui ne travaillent pas pour eux, on va...
leur attribuer des marchés.
C'est exactement ça, parisien, la mairie va leur attribuer des marchés, des crèches, des logements sociaux, voilà. Donc c'est assez simple.
Quelle est l'ampleur, finalement, du délit ? Parce que c'est un délit, je veux dire, ça concerne combien de personnes ? Enfin, pas précisément, évidemment, je ne vous demande pas un chiffre précis. Mais...
Ça va évoluer. Ça démarre par donc deux secrétaires qui vont avouer effectivement avoir été salariés par une entreprise de BTP, les Charpentiers de Paris. Donc il y en a deux, puis progressivement on se rend compte qu'il y en a plusieurs dizaines. On va estimer qu'il y en a peut-être 100, 50, 60, 100. Mais en réalité, il va y avoir deux procès, le procès Juppé, le procès Chirac. Et sur l'ensemble, on va parler de 27-28 emplois fictifs. C'est-à-dire qu'on va réussir à avoir des éléments pour une vingtaine d'emplois.
Alors, on parle toujours des accusations finalement de corruption active, ça c'est de la part du RPR. Mais ceux qui acceptent, ils sont en corruption passive finalement.
Ils sont en corruption passive, mais ils vont considérer que c'est tout à fait...
Ce qui les innocente pas, le fait que ce soit passif. Enfin, bon, il y a quand même deux aspects dans la corruption.
C'est très curieux parce que la ligne de défense de tout, c'était des emplois d'assistants, de collaborateurs, de secrétaires, de chargés de mission, ce qui est très commode parce que chargé de mission, on peut mettre dedans un peu ce qu'on veut. Alors certains travaillaient vraiment pour le RPR et pour d'autres, c'était des emplois de complaisance. On va retrouver des épouses, des frères, des cousins, des copains, donc là, qui n'étaient pas du tout... au RPR, pour ceux qui étaient au RPR, et ils vont se justifier en disant tout le monde le faisait, c'est normal. Ou utiliser une autre ligne de défense qui n'est pas inintéressante, c'est de dire mais en réalité, je travaillais au RPR, mais je travaillais aussi à la mairie de Paris. Donc c'est des très très grosses journées où le matin on est au RPR et le soir on est à la mairie de Paris. C'est vraiment ce que certains vont déclarer à la barre. 10 ans après.
Mairie de Paris, bien sûr, rappelons-le, détenue très longtemps par les RPR, avant que les socialistes n'y soient élus, Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo aujourd'hui. Alors parmi ceux qui ont porté plainte, justement, tiens, et qui accusent le cabinet du maire Jacques Chirac de s'être livré à ses pratiques, il y a l'opposition politique, il y a Pierre-Alain Brosseau, il était à l'époque président de l'association Écologie pour Paris, on va l'écouter.
On a l'impression que le cabinet du maire était un cabinet de copinage, c'est clair. Et ce qui est plus grave, c'est que même certains emplois qui étaient des emplois réels, où la personne travaillait, elle travaillait pas non pour le compte de la mairie et donc de la communauté publique, la ville de Paris, mais pour un parti. Il y a effectivement une centaine de personnes qui ont été entendues. Là-dedans, ils disent qu'il y a 30 personnes qui seraient réellement fictives, sachant qu'il y a encore environ 300 personnes à auditionner, on peut s'imaginer qu'il y a réellement entre 100 ou 150 personnes qui sont, disons, réellement des emplois fictifs.
Voilà, c'était en complément de ce que vous avez dit. Alors, quels sont maintenant les éléments qui ont permis à la justice de mettre en cause le Premier ministre en exercice, Alain Juppé, tout comme le Président de la République, Jacques Chirac, en fait les deux plus hauts personnages de l'exécutif, hein, carrément.
Ça a été extrêmement compliqué, puisqu'il y a très peu de preuves. Il va y avoir des témoignages, des aveux progressifs. Il y a très peu de documents puisque c'est extrêmement compliqué de prouver que quelqu'un n'a pas travaillé. Précisément, on a rien. En revanche, il va y avoir deux notes. On va retrouver deux notes signées, l'une par Alain Juppé, l'autre par Jacques Chirac. On va les découvrir assez tard et c'est ce qui va permettre de poursuivre. Des notes signées dans lesquelles on demande au maire de Paris d'embaucher une secrétaire, et c'est une façon de la remercier pour toute sa carrière au RPR. Et cette note-là, elle va être déterminante.
Alors, dans l'affaire Mairie éclate, parce qu'on va revenir à l'affaire Mairie, vous expliquez qu'en coulisses, à l'Élysée, le secrétaire général de la présidence, Dominique de Villepin, à l'époque, est chargé d'établir une sorte de cordon sanitaire autour d'Alain Juppé pour le protéger. Là, pourtant, ce sera lui, Alain Juppé, qui paiera en premier les pots cassés dans toute cette affaire. Jacques Chirac était intouchable parce que président, c'est ça, tout bêtement.
C'est exactement ça. Donc, juste en dessous, c'est Alain Juppé, secrétaire général du RPR au moment des faits, qui va être mis en examen en 98, jugé, condamné en 2003. C'est vraiment le premier poids lourd de cette l'affaire qui va payer en gros pour les emplois fictifs. Ouais.
Cette affaire Cassette Mairie, est-ce qu'elle est... Alors on avait dit, hein, ça va faire sauter la République, on l'a dit, ça n'a rien fait du tout, ça fait pchit, d'ailleurs comme l'avait prévu Jacques Chirac. On a entendu cette fameuse interview chez Élise Lucet à 19h20 sur France 3. Est-ce qu'il a été bon, Jacques Chirac, sur ce coup-là? Est-ce qu'il a déminé? Parce que c'était quand même ça, son idée, son objectif, et puis ce mot abracadabrantesque était quand même assez habile finalement, parce que je me souviens, on a parlé plus sémantique, hein, la sémantique d'abracadabrantesque, que du fond de l'affaire à l'époque.
Je sais pas très bien s'il a déminé, parce que si on se replonge dans ces années-là et qu'on regarde dans les archives, la presse parle de cette affaire absolument tous les jours. Ça dure plusieurs années. En revanche, les politiques font bloc, c'est-à-dire que personne ne parle, personne ne révèle quoi que ce soit. On va vraiment avoir jusqu'au bout une espèce
d'omerta.
Même de déni, sur le procès Chirac, on le verra plus tard comment ça se termine. Mais même 15 ans après, il continue à contester, il conteste les faits, il conteste sa responsabilité.
À l'époque, toute la classe politique est empêtrée dans les affaires, écrivez-vous, mettant en exergue, en intertitre, hein, ce paragraphe. Côté socialiste, après Urba, le parti rattrapé par le scandale des emplois fictifs de la MNEF. Du coup, les parlementaires ne se bousculent pas pour réagir et vous mettez comme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Comme aujourd'hui, c'est-à-dire que la classe politique, c'était assez intéressant pendant le Penelope Gate, va plutôt défendre François Fillon sur un point, en expliquant que l'emploi familial, employer sa femme, ses enfants, c'est légal. Ils sont tellement nombreux à le faire qu'ils ne vont pas remettre en cause cette pratique. Certes, elle est légale, mais elle pose question, elle pose problème. Et personne ne remet jamais ça en cause. Et à l'époque, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va dire « c'était légal ». Avant 88, le financement des partis politiques, c'est une espèce de grand trou noir. Il n'y a pas de loi, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Donc, ce que va faire la classe politique, c'est revenir à avant 88 en disant « mais à l'époque, c'était légal, ou c'était toléré, ou c'était accepté ». Donc, de fait, il n'y a pas du tout de remise en cause des pratiques à partir du moment où on considère qu'elles sont légales, tolérées, acceptées. Tout le monde le fait, donc... Donc il n'y a pas de problème.
Ce fameux argument qui a quand même pris, pardon d'être familier, mais effectivement un coup dans l'aile hein, depuis l'affaire Fillon. Ouais. Il n'est pas certain que l'argument qui consiste à dire « bah oui, mais tout le monde le fait » puisse encore fonctionner. Zineb Zrieff, on va se retrouver dans 3 minutes, on va écouter un peu de soul music, d'accord ? Ouais.
Funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that
it ain't all good. And that's the truth. Things ain't going like things should.
I can't believe we built this large pizza pie together. No pepperoni. Yeah, you wanted extra cheese. Sometimes I gave you extras. How we divided slices like the Red Sea theory. I was Moses hopelessly scorned by your thorns, Zipporah. Tried to bring that fairy tale life. You wanted horror, but my microscope couldn't see a cope with that. I had to bolt from that and left it dead in the sea. It's better for me. I'm satisfied with repping for D.
We were certified hot, then dropped to lukewarm. Now we back up in the spot, claiming never been gone. Niggas who cut us off wanna reattach us now.
Them girls who brush us off say they want some numbers to die.
Yeah, I get that ass a number and some lumber to pile. Then catch a curve from my kid.
Won't show me love if I break.
So stick to the same plan. Don't come shaking my hand like we peeps. It ain't beef, but be sure to understand. Between us, it ain't
all good. That's the truth.
On what we done cop.
Always off the scheme.
They steady fiending for the moment they can get us off the block.
What are we seeing?
Your people might have your back, but you need to watch the front. Indeed, they're nothing guaranteed. A lot say they wanna walk in my size 10s. Alright, then here's a pair. Lace them up tight, then you might feel what was dealt to me. You see, ain't no young boys up in here. Keep a clear head, trying to keep my pockets on stuff. Like deer heads upon the wall, so all the gold we get from y'all don't phase. So mind your biz and walk your ways, cause I'm never gonna let you up inside my maze.
I don't care about what you think you say. Things you want to know when you look at me. God confided in them and paid my dues. I can't change how you feel.
Zi Zinette Drieff, on se retrouve donc pour commenter cette affaire et parler de cette affaire Cassette-Mairie. Alors, à la fin de son second mandat de président de la République, Jacques Chirac redevient injusticiable comme les autres. Et au mois de juillet 2007, il devient surtout le premier ancien chef d'État à être entendu par la justice. C'est pas une pratique courante chez nous, donc c'est pour ça qu'on pointe cet événement. Et forcément, donc à l'époque, l'affaire fait grand bruit dans les médias. Écoutez.
Jacques Chirac, tout sourire à son retour cet après-midi dans ses bureaux de la rue de Lille. Deux mois après son départ de l'Élysée, pour l'ex-chef de l'État, le rendez-vous du jour n'avait rien de politique, un tête-à-tête avec un juge.
Vous avez une déclaration à faire ?
Bonjour, monsieur.
Quatre heures d'audition et un retour en arrière, au temps où il était à la fois maire de Paris et président du RPR, à une époque où la ville de Paris rémunérait des permanents du parti gaulliste, une pratique qui aurait perduré de 88 à 95. 4 heures d'audition durant lesquelles il a dû répondre aux questions du juge Alain Philibault, chargé du dossier des emplois fictifs du RPR, dossier dans lequel a déjà été condamné Alain Juppé, alors secrétaire général du parti. 4 heures en qualité de témoin assisté, autrement dit, avec l'aide d'un avocat.
Je crois que les explications que l'ancien président de la République a fournies au juge ont été tout à fait complètes, transparentes, explicite son rôle, sa connaissance des faits et devrait par conséquent satisfaire les juges en charge du dossier.
Pour vous, il n'y aura pas d'autres auditions ?
Je n'imagine pas qu'il puisse y en avoir d'autres, mais le juge est maître de son dossier.
Pas de système organisé dans le financement des partis politiques, c'est la défense de Jacques Chirac devant le juge et dans une tribune du Monde. Avant la loi de 95, écrit Jacques Chirac, les responsables politiques de l'époque ont agi avec probité et dans le souci de l'intérêt général. 7 ans de tâtonnement se sont avérés nécessaires pour parvenir au bon régime juridique.
Voilà, on a tendance à l'oublier, mais comme vous le rappelez très justement dans votre article, Jacques Chirac a bel et bien été reconnu coupable par la justice en 2011. Quelle était la condamnation, on la rappelle ? Et coupable de quoi ?
Oui, on la rappelle. Alors, il est coupable de détournement de fonds publics et d'abus de confiance et il est condamné à 2 ans de prison avec sursis. Donc, on est 15 ans après les faits. On a peut-être un petit peu oublié l'affaire, les détails. On n'est plus dans de l'actualité brûlante, mais ça reste quand même inédit. C'est un événement. Un ancien chef de l'État qui est condamné. Ce qui est intéressant, c'est que Jacques Chirac ne fera pas appel. Il ne fait pas appel. En revanche, il conteste catégoriquement le jugement et on se souvient que ses avocats au tribunal dénoncent en fait la condamnation en disant mais c'est en gros vous condamnez Jacques Chirac à avoir cette image, vous condamnez d'une certaine façon, vous condamnez la France et l'image de la France. Et, voilà.
Ce qui est un argument politique, mais pas juridique, effectivement. Quand on a un dossier comme ça, il faut le maîtriser parfaitement. Parole de Catherine Pierce, qui a présidé le procès des emplois fictifs du RPR. Alors elle dit, c'est la première fois que des hommes politiques de cette envergure passaient devant le tribunal. Et la phrase qui vient est intéressante, dit-elle. Personne n'avait envie qu'il soit condamné. Vous l'avez rencontré, la juge ?
On a discuté assez longuement. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle voit effectivement arriver dans ce tribunal Alain Juppé, donc ancien Premier ministre. Elle est pas exactement intimidée, mais elle sent qu'on la regarde. Elle me parle, en fait, de la pression. Alors, il y a eu des pressions politiques, hein, ça, elle le raconte. Elle raconte que les réunions qu'elle doit faire, elle fait attention à son téléphone, aux portes qui sont bien fermées, elle a l'impression d'être écoutée. Donc, il y a cette pression politique, il y a une pression médiatique, et il y a aussi la pression, alors, est-ce que c'est la pression de l'histoire, de la gravité du moment, mais elle sent quelque chose de particulier, oui, parce que c'est absolument pas anodin de juger des personnalités politiques aussi.
Surtout quand on pense, comme elle le dit, que personne n'avait envie qu'il soit condamné. Ouais. C'est quand même pour un juge, il y a une vraie pression.
C'est une vraie pression.
Et c'était, vous a confié que c'était quelque chose de difficile pour elle, qui l'a marqué
Ça a été quelque chose de difficile, quelque chose qui l'a marqué et qui est impressionnant. Elle utilise le mot impressionnant, impressionné. C'est quand même des salles d'audience qui sont pleines de journalistes, pleines de médias. C'est pour ça qu'ils durent longtemps. C'est des procédés où il faut faire attention à ce qu'on dit. Elle a énormément travaillé. Ça, elle raconte que ça a été plusieurs semaines de travail extrêmement intense où elle devait absolument tout maîtriser au détail près. Donc, ce qu'elle va Parce qu'elle va passer un été comme ça, à plancher.
Avec un enjeu lourd, ouais, et important. Alors, l'aspect saisissant dans cette affaire des emplois fictifs de 1995, c'est le parallèle qu'on peut faire avec ce qui s'est passé cette année, en 2017, et vous l'avez fait d'ailleurs, hein, avec, tout à l'heure, dans l'affaire Fillon. On va écouter, on va réécouter, on connaît, hein, cette déclaration parce qu'elle est récente, mais on va la réécouter. La défense de François Fillon, alors c'était le 30 mars dernier.
Le Canard Enchaîné publie une information me concernant. 2 heures après la sortie du Canard Enchaîné, le parquet financier se saisit. Des journalistes écrivent, et je vous rappelle qu'il s'agit d'une affaire qui concerne l'emploi de mon épouse comme attachée parlementaire, c'est-à-dire un sujet qui concerne des centaines de parlementaires. Des journalistes écrivent un livre en expliquant que le président de la République se fait remonter le résultat des coûts judiciaires. Qu'il y a tout un réseau qui a été mis en place pour traiter les affaires judiciaires au niveau du pouvoir, et personne ne se saisit.
Mais vous dites
ça
que
vous choque pas du tout.
Alors d'abord ça
non,
concerne effectivement
pas. C'est juste l'état de droit qui est en cause, c'est juste la démocratie qui est en cause. Et la démonstration, madame, a été faite que cette accusation était fausse.
L'accusation du caractère fictif de l'emploi.
Bien sûr, il y a un nombre de témoignages considérable.
Vous avez apporté les preuves.
Bien
qui
sûr, des preuves matérielles, des preuves, des témoignages. Et je vous le dis comme ça, les yeux dans les yeux, ici, jamais les juges ne pourront démontrer que l'emploi de mon épouse était fictif.
Donc
jamais.
Votre...
Alors, telle était la défense de François Fillon, qui s'est battu, hein, ça veut dire qu'il s'est battu. Enfin, ça n'a pas marché, parce qu'il n'a pas été élu. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette tactique de défense, par rapport à ce que fut, par exemple, celle d'Alain Juppé, à la fin des années 90?
Alors, autant la classe politique a tendance à dénoncer la dictature des juges, de la transparence, etc., mais personne n'était allé aussi loin que François Fillon. Non, il a quand même eu des mots extrêmement durs. Juppé en 98 le dit. Il dit moi je ne suis pas, je ne crois pas à un complot. Je fais confiance à la justice. Il va garder le silence. C'est sa stratégie et à aucun moment il va attaquer comme ça frontalement les juges et la justice. C'est la grande différence entre les deux. C'est-à-dire qu'Alain Juppé va prendre d'une certaine façon. Ses responsabilités. Ça, il conteste les faits, mais à aucun moment il va attaquer les juges, la justice.
La méthode est effectivement différente. Moi, c'est si près que François Fillon, lui, dans un épisode électoral extrêmement important, que c'est pour lui une question de vie ou de mort, symbolique évidemment, hein, politique. Hein. Là, il est vraiment dans le feu de l'action, mais c'est vrai que les deux approches sont différentes. Je remarque deux noms, dites donc, dans l'histoire que nous avons racontée, alors qui remonte pour le coup aux années 90 et 2000. Patrick Stefanini et Jérôme Grandénon sont des protagonistes, pas les plus importants, de l'affaire, de fond détourné par le RPR à l'époque, mais, si je ne m'abuse, Patrick Stefanini était dans le staff de campagne de François Fillon avant qu'il n'en ait claqué la porte, et Jérôme Grandénon des noms dans celui de Bruno Le Maire, mais d'aujourd'hui, hein.
Ouais. Alors. Oui, on les a retrouvés cette année. Tous les deux ont été impliqués dans le scandale. Tous les deux vont être poursuivis et tous les deux vont avoir une ligne de défense particulière. Patrick Stefanini, pour justifier donc de son emploi à la mairie de Paris, il va expliquer que le matin, il travaillait au RPR, que l'après-midi, il était à la mairie de Paris, que pour le déjeuner, il retournait au RPR. Enfin bon, il y avait comme
tout
ça.
Tout ça était cohérent, en fait.
Voilà, c'était un emploi du temps assez compliqué. Le problème, c'est que personne ne l'avait jamais vu à la mairie de Paris. C'est-à-dire qu'on n'a aucun témoignage ayant vu Patrick Stefanini à la mairie de Paris. Il n'est pas dans l'annuaire, il n'a pas de bureau, il n'a pas de carte de visite, il n'a pas de numéro de téléphone. Et pour Jérôme Grandénon, c'est un peu différent, c'est-à-dire que lui va expliquer pendant son procès que tout est parfaitement légal et qu'il voit absolument pas où est le problème. Mais je pense qu'il y a presque de la sincérité dans ce qu'il
dit. C'était le pire. Alors, on va terminer par une petite formule, un mot. D'ailleurs, vous citez le sociologue Pierre Lascoum, directeur de recherche au CNRS, qui parle, alors lui, dans ce genre d'affaires, d'un effet Teflon. C'est marrant. En quelques secondes, ça veut dire quoi, un effet Teflon?
Un effet Teflon, c'est que ça n'attache pas. C'est-à-dire que tout le monde a oublié que Jacques Chirac avait été condamné, qu'un scandale, aussi retentissant soit-il, ça ne signifie pas non plus sanctions politiques. On a un tas d'exemples. Si on prend Patrick Balkany, par exemple, il a continué à être élu sans problème. par les habitants.
C'est
l'effet Teflon. C'est
imagé, on comprend très bien. Merci beaucoup, Zine Andrieff.
Merci.
Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la cassette Mairie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la mort très mystérieuse du pape Jean-Paul Ier après un mois de pontificat.